Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
Le très grand plaisir d'accueillir dans les studios de Radio SBS James Hewson. Bonjour à vous.
Bonjour à vous, Jean-Noël.
James, vous êtes le Head of Film Programs, SCMI, donc directeur de la programmation de films, de courts-métrages, de documentaires. C'est Australian Centre for the Moving Image, une nouvelle fonction pour vous.
Oui, je viens juste de commencer il y a 7 semaines en fait. ACMI représente quelque chose de très important dans la vie culturelle de Melbourne et donc en Australie en fait.
Oui, parce que vous avez beaucoup de touristes qui viennent.
Oui, exactement. Donc par exemple, l'année dernière, on avait 1,3 million de visiteurs 2015. Et c'était surtout l'expo sur David Bowie où il y avait le plus de visites, de spectateurs.
Quelques mois après, c'était sa disparition.
Oui, qui était triste. Donc le timing, comme vous avez dit,
impeccable.
C'était impeccable, mais avec une sorte de mélancolie, on peut le dire, oui.
On a eu de la chance en Australie, on va dire.
Oui, et maintenant, on a l'expo sur Martin Scorsese qui vient juste d'ouvrir il y a une semaine. Et en fait, nous sommes à Melbourne, la troisième destination justement pour cette expo, parce que juste avant Melbourne, c'était à
la Cinémathèque française,
à Paris. Et donc, j'ai eu la chance d'être à Paris à Noël, donc j'ai vu l'expo là-bas. Et moi, je trouve que en fait, l'expo ici est mieux qu'à Paris.
Pourquoi ?
Écoutez, honnêtement, même si j'admire beaucoup la Cinémathèque, enfin, je veux dire le bâtiment, construction, etc., et bien évidemment la programmation de la Cinémathèque et dans la vie culturelle pour un cinéphile comme moi, c'est très important. Les espaces, les salles d'expo là-bas sont un peu
restreints.
Justement. Donc, pour moi, souvent, il y a des problèmes de son, il y a des problèmes d'image. On a l'impression que ça fait un peu bric-à-brac, en fait. Mais là, heureusement, on a beaucoup plus de place ici à ACMI. Et moi, je trouve que c'est mieux présenté. On a l'impression qu'on peut respirer un peu plus et on peut admirer. Justement, un peu plus. On peut pénétrer un peu plus. On peut réfléchir un peu plus. Donc, tout ça, c'est important parce qu'en fait, ça doit faire presque 60 ans Scorsese fait son cinéma. Donc, ces films, ils ont touché au moins 3 générations de spectateurs. Donc, il est là pour la plupart du monde. Donc, c'est important que, justement, on a le temps de réfléchir, de trouver des indices qui sont peut-être des indices à nouveau.
Donc, il y a pas mal de photographies, de storyboards, de costumes, d'affiches, etc. pour mieux comprendre ce monsieur du cinéma new-yorkais, je précise.
Oui, très important. Parce que justement, il reste toujours très fidèle. Il reste toujours très fidèle à ses circonstances, sa famille, sa vie culturelle, son
Little
heritage,
Italy, ouais.
Et surtout Little Italy, à New York, bien évidemment. Et il reste toujours très fidèle à ses collaborateurs. Et donc, c'est pour ça que je trouve que l'expo est à la fois très touchant. Et très éducatif parce qu'on voit justement la chronologie de non seulement sa vie personnelle, mais autant qu'artiste, c'est fascinant. Et ses influences qui sont non seulement la fidélité non seulement avec ses collaborateurs, mais ses influences, surtout la Nouvelle Vague, très influencé par la Nouvelle Vague.
Et de Jean-Luc Godard.
Et Godard, surtout. Il était très admirateur. Enfin, il reste toujours très admirateur de Godard. Et lui aussi, il est collectionneur. Donc, on a pas mal de ses lettres, ses effets.
Des échanges entre Godard
personnels.
Et lui, ouais.
Donc, voilà. Donc, ça, c'est important, tout ça. Donc, on a l'impression qu'on rentre dans une sorte de boîte privée avec ses effets personnels. Donc, ça, c'est... Encore une fois, parce qu'on est très au courant de tout ce qu'il a fait, mais ça pénètre un peu le façade, si vous voulez. Donc ça, c'est assez important et très impressionnant.
Et on voit aussi beaucoup d'images de Robert De Niro.
Robert De Niro, bien sûr, parce qu'ils ont fait
pas mal de films,
huit longs métrages. Et plus récemment, un court métrage, une sorte de publicité qu'il a fait avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, un peu moins important dans ses œuvres. Mais on voit justement ses rapports avec ses acteurs fétiches. Maintenant, c'est Leonardo DiCaprio, mais avant, c'était bien évidemment
Robert De Niro.
Ouais.
On va parler maintenant de Cannes 2016 avec cette 69e édition.
Oui.
La Palme d'Or à Ken Loach, une surprise pour vous?
Ben, écoutez, au début, non, pas du tout, parce que c'est un film très très fort. Ça parle de la vie quotidienne d'un monsieur d'un certain âge qui a eu un accident, enfin une crise cardiaque. Et il perd tous ses... comment je peux dire?
Repères.
Oui. Dans la vie non seulement sociale mais aussi de welfare, enfin
de la société néolibérale.
Voilà, exactement. Donc il perd le fil un peu et puis on voit sa dégradation. Donc il devient de plus en plus marginalisé.
Ouais.
Dans la vie quotidienne. Donc c'est un film avec plein, c'est un film très politique, très fort, très personnel, très intime, mais qui parle non seulement de Newcastle, là où il mène sa vie, où il a toujours mené sa vie, mais ça parle de nous en Australie, ça parle de la France, ça parle de l'Europe, ça parle des changements et certainement aussi quand il doit avoir 60 ans dans le film, il n'est pas très doué avec la vie numérique des ordinateurs, etc. Donc il est complètement perdu par rapport à la vie sociale. Surtout quand il perd son boulot, et il est obligé de chercher une sorte de nouveau vie en fait. Et donc et ça parle de sa lutte. Mais est-ce que c'est le meilleur film? Donc c'est à discuter, bien évidemment. Mais est-ce que c'était le meilleur film? Non seulement à part le fait que c'est un film très important et ça parle de nos jours. C'est à la fois universel et personnel. Donc ça, chez Loach, c'est toujours très important. Mais on a l'impression qu'on a vu ce film, même si c'est un très fort film, fait par un réalisateur, un auteur en fait. Est-ce que c'est son meilleur film? Je ne sais pas. Est-ce que c'était le meilleur film en compétition? Moi, je ne suis pas convaincu. Bien évidemment, ça c'est ma vie, enfin ça c'est pour mes raisons personnelles. Mais je n'étais pas choqué, c'était surtout le Grand Prix. Primé, enfin c'était le film de Xavier Dolan qui était primé.
Ah, le Canadien, oui.
Que j'ai pas vu.
Juste
la fin du monde. J'étais là à Cannes justement pendant les palmarès et on était très choqués. Surtout les critiques qui ont bien attaqué le film, même s'ils ont, non seulement le festival, mais les critiques, ils ont soutenu Dolan parce qu'il a fait son premier film à l'âge de 17-18 ans, donc c'est une sorte de garçon prodigieux. Mais son plus lourd film côté production, avec un budget très important, avec un casting très important, surtout avec Marion Cotillard. Et oui, on était très surpris parce qu'il y avait des films très forts. Il y avait un film iranien qui était très fort, un film allemand en compétition aussi très fort, un film qui s'appelle American Honey qui était primé, mais on a attendu quelque chose de plus lourd justement côté prix. Donc on était un petit peu étonnés en fait. Mais il faut regarder le jury, ils ont leur propre logique, ils ont leur propre subjectivité et autant que jury, objectivité par rapport aux sélections de Thierry Frémaux cette année, bien évidemment.
Et on a eu de la chance aussi avec le président du jury qui est australien, George Miller.
Oui, Dr. George Miller, bien sûr, parce que son film Mad Max Fury Road a été le film d'ouverture il y a un an à Cannes.
On va parler maintenant peut-être de l'industrie cinématographique australienne. Mm-hmm. Est-ce qu'elle est toujours bien perçue en France?
Ah, écoutez, très, très bonne question.
Est-ce qu'il y a un engouement pour le film?
Écoutez, j'ai l'impression, parce que j'étais à Paris pendant 2 mois à Noël, il n'y avait pas de film australien en salle. Mais quand même, c'était le moment de Mad Max. Enfin, c'était juste après, bien après le sortie de Mad Max, qui est considéré comme un film australien, mais en fait, c'est vraiment un film de studio qui n'était pas tourné en Australie. Mais enfin bon, ça, c'est un autre débat. Mais côté, par exemple, les succès en Australie, côté box-office de l'année dernière, les films australiens, pour la plupart, ils n'ont pas encore sorti en France. Par exemple, The Dressmaker, surtout, je ne sais pas s'il y a certainement un distributeur, mais je ne sais pas si le film est sorti en salle. Et donc, c'est toujours avec un œil un peu sobre, si je peux dire, quand on regarde, et pour des bonnes raisons, on est très content avec les succès en Australie, une année avec des films très divers, avec beaucoup de succès, de petits films, des grands films, etc., des films pour famille, des films de genre, des films dramatiques, etc., et des comédies, bien évidemment. Mais là, j'ai l'impression que les Français ne sont pas forcément au courant. Mais de plus en plus, j'ai l'impression aussi que chaque pays a leur propre cinéma, comme toujours. Mais on a l'impression que même si Hollywood, bien évidemment, continue de dominer le box-office et nos écrans partout au monde, soit à Melbourne ou à Marseille ou à Milwaukee aux États-Unis, le cinéma, disons, domestique reste toujours très fort dans chaque pays à eux. Donc, côté français, c'était une année très forte en France l'année dernière pour le cinéma français. Mais côté australien, non, je crois qu'il y avait très peu de sorties de films australiens là-bas.
Je reviens sur vos fonctions comme directeur de la programmation à SCMI. Peut-être un mot sur vos projets, projets immédiats et au-delà de 2016.
Bah, écoutez, je viens juste de commencer, donc je prends mon temps.
Ouais.
Changement de boulot, changement de circonstances, changement de structure, changement d'objectifs et de stratégie. Donc j'évite pas la question, mais c'est peut-être un peu tôt. Moi, j'ai envie. Moi, je trouve que c'est important parce que ACMI, ça doit faire plus que 10 ans que ACMI existe. Qu'on a des belles expos, il y a des expos permanentes, etc. Comme Screen Worlds, il y a la médiathèque. Côté archives, il y a la collection de l'ambassade française qui fait partie d'ACMI depuis un moment. Donc, pour l'instant, je regarde et j'écoute. Et moi, j'ai envie que, surtout maintenant, parce que j'ai l'impression, comme pas mal de gens, pas mal d'amis, pas mal de cinéphiles, même s'il y a, par exemple, le Cinémathèque marche très bien à ACMI, que côté cinéphile, il y a de moins en moins de choix, à part certaines salles. Donc, moi, j'ai envie que c'est beaucoup plus présent. Et moi, j'ai l'impression aussi que je trouve personnellement que c'est très important que ACMI joue un rôle qui est plus présent, en fait, sur la scène culturelle cinématographique de Melbourne. Parce que il y a pas mal de festivals. Il y a le Festival du cinéma français, il y a le Melbourne Film Festival qui marche toujours très, très bien. Mais en dehors de ces festivals, une fois que le cirque est parti, qu'est-ce qui nous reste tous les semaines? Et c'est ça qui m'intéresse. Il faut
éduquer, informer le public.
Voilà, voilà. Mais par exemple, on a un film français qui est très fort, qui passe à ACMI en ce moment, avec Karine Viard et la merveilleuse Emmanuelle DeVos, qui s'appelle Il faillit être ami, je crois. Oui, c'est ça le titre en français, parce qu'en anglais, c'est Almost Friends. Et c'est un film, c'est un drame, mais c'est à la fois un peu mélancolique, mais ça parle d'une amitié un peu hors du commun entre deux femmes dans les quarantaines, presque cinquantaines, qui mènent toutes les deux une vie, qui commence de poser des questions. C'est un peu hors du commun pour le cinéma français. Donc, c'est intéressant.
Une question peut-être un peu personnelle. Votre projet sur... vous êtes producteur de Warm Blood.
Ah.
Vous pouvez peut-être nous en parler?
Oui. Qui est... voilà, justement, comme vous avez dit, c'est plutôt un projet personnel. pendant très longtemps, je travaille. Enfin, en fait, moi, je mène une vie où ma vie professionnelle et ma vie personnelle sont plus ou moins pareilles, en fait. Je suis fanatique du cinéma depuis très longue date. Et j'ai beaucoup d'amis qui travaillent comme réalisateurs, qui travaillent dans l'industrie comme créateurs. Et avec un ami australien qui est un réalisateur très fort et assez connu, Emil Corton Wilson, et un ami à nous, un Américain qui travaille à Los Angeles, enfin qui vit et travaille à Los Angeles. On a parlé très longtemps, pourquoi pas faire quelque chose ensemble. On fait ça tout le temps. Et finalement, notre copain américain nous a proposé de travailler avec lui sur un scénario qu'il a lu. Enfin, en fait, c'est une sorte de comic book américain des années 80 comme inspiration pour un long métrage. Donc, on travaille depuis un moment sur le long métrage. Donc, c'est intéressant parce que j'ai évité justement les responsabilités d'être producteur parce que ça prend du temps. Il y a toujours des difficultés. Donc, j'ai évité pendant très longtemps, mais avec ces camarades-là, j'ai envie d'avoir un peu plus d'expérience de ce côté-là. Mais en fait, c'est rien à voir avec mes responsabilités à Acme. Donc, c'est plutôt parce que je reste curieux, en fait. Mais je suis aussi conscient du fait que je ne veux pas me mêler dans quelque chose. Enfin, j'aime bien le côté créatif et j'ai un peu d'expérience côté distribution là. Mais donc, c'est une piste un peu hors commun. Donc, c'est ça qui m'intéresse.
Et peut-être une dernière question, James. Oui. C'est une question que j'aime poser. C'est une inspiration de Julia Zemiro qui pose cette question souvent à ses invités. James Ewison, à l'âge de 12 ans, est-ce qu'il se voyait déjà impliqué dans le monde du 7e art?
Très bonne question, à l'âge de 12 ans. Ben écoutez, j'étais toujours...
Fasciné par le cinéma?
Toujours pris par le cinéma et j'ai des très belles souvenirs de mon enfance, enfin plus généralement. Et aussi, mes parents n'étaient pas cinéphiles comme ça, mais qui avaient l'habitude, parce que c'est une question de génération, qu'ils voyaient toujours les films de Bergman, La Nouvelle Vague, etc. Et il y avait des belles salles pas loin de chez nous, où j'étais élevé, à Brighton, à Melbourne. Et donc, je me souviens, on était allé voir les séances de samedi après-midi avec le bel orgue qui était là, sur scène, entre deux films. Donc, c'était toujours une sorte de spectacle. Donc, ça m'a toujours pris. Et à l'âge de 12 ans, c'était plutôt... Oui, un peu plus tard. Mon père n'était pas très pour à l'époque. Mais après, il était très pauvre, en fait. Donc voilà.
James Ewison, merci à vous.
Merci beaucoup, Jean-Noël.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.